Mamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Vous êtes bien sur la radio Inzamba Agathe Kakawe. C'est l'heure du journal en français. Donc voici d'abord les principaux titres. Des cas de Covid-19 ont été découverts ce jeudi en commune Nega de la province Kirundo. L'administration a du coup pris les mesures pour limiter les mouvements de déplacement de la population. Les détails dans ce journal. Dans ce journal également, il se remarque que ces derniers jours, des glissements de terrain au niveau des montagnes surplombant la ville de Bujumbura. Le ministère ayant la prévention des catastrophes dans ses attributions pense que c'est à cause des constructions anarchiques au bord des rivières. Et puis les réfugiés burundais du camp de Mulongwe en RDC sont mécontents. Ils ont de sérieux problèmes pour trouver du charbon pour la cuisson. Voilà pour le sommaire de ce journal. Merci d'avoir choisi ce rendez-vous d'information.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Ce samedi, les routes venant de Nega et menant vers le chef-lieu de la province de Kirundo, et qui avait été fermée à cause des cas de Covid découverts dans cette commune, ont été ouvertes de nouveau à 10h. Même si son handicap est levé, les habitants de Nega demandent à l'administration de leur laisser la liberté d'accéder aux cabarets et aux restaurants, arguant que la perte est énorme pour la population. On écoute un des habitants de Nega.
Ce matin, les routes étaient encore fermées. Aucun habitant de Nega ne pouvait se rendre à Kirundo. C'est vers 10h qu'elles ont été réouvertes, mais l'administration a pris une mesure de fermer les restaurants et les bars. Ceux qui étaient surpris entraient de cuire les aliments pour les restaurants et qui avaient ouvert leur cabaret payaient une amende de 20 000 francs. Nous ne savons pas quand cette mesure sera levée. Au lieu de nous enfermer comme des gens en guerre, ils devraient pourtant nous sensibiliser en matière d'hygiène. Ceux qui font le commerce de la bière de banane n'ont plus de débouchés.
Et puis, les fortes précipitations et l'activité de curage qui se fait au bord des rivières sans respecter les normes de l'environnement sont à l'origine des glissements de terrain sur les montagnes qui surplombent la ville de Bujumbura, selon Anissé Nivaruta. Pour ce secrétaire de direction de la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes, la population doit respecter les normes exigées pour faire des constructions au bord des rivières ou des lacs. On l'écoute.
Et la cause essentielle de cette destruction, ce sont les fortes précipitations. Les eaux de pluie qui passent dans les bassins versants non aménagés contribuent à l'aggravation de ces points qui sont en destruction. Il y a aussi l'activité de curage qui est faite de manière manuelle et sans encadrement. Et on demande que cette activité soit bien encadrée pour ne pas aggraver cette situation. Il y a des actions qui doivent être menées. Et il s'agit entre autres de la sensibilisation. Ça, c'est une activité de l'administration qui doit sensibiliser la population pour que la population trace le passage des eaux de pluie et avertisse les institutions responsables avant que la situation ne devienne critique. Il faut aussi que le curage doit être encadré. L'administration doit aussi veiller sur le respect des normes qui sont prescrites par le code de l'environnement.
Je vous le disais en titre, le problème de cuisson est devenu un véritable casse-tête dans le camp des réfugiés burundais du site de Mulongwe en RDC. Ces réfugiés disent qu'ils reçoivent une quantité insuffisante de la tourbe pour la cuisson. Le manque du charbon est venu empirer la situation. Un sac de charbon qui se vendait à 20 000 francs s'achète aujourd'hui à 40 000 francs. Les réfugiés de ce site demandent que la quantité qui leur est offerte soit augmentée. Les détails avec Vanessa Muiteka.
Ces réfugiés burundais du sud de Mulongwe disent que la tourbe qu'il leur a donnée pour la cuisson pour une période de 3 mois est insuffisante. Ils disent que cette quantité ne peut couvrir à peine 5 jours. Ils interpellent les responsables du site d'augmenter la quantité distribuée comme un d'eux le témoigne.
Comme nous le constatons, on donne de la tourbe sur une période de 3 mois, mais en quantité insuffisante. Elle ne peut pas couvrir les 3 mois. Des fois, mon épouse l'utilise sur une journée ou au maximum 2 jours et c'est fini. Nous demandons franchement à ce qu'on nous vienne en aide en nous fournissant la tourbe en quantité.
La pénurie du charbon est venue compliquer la situation. Aujourd'hui, un sac de charbon coûte 40 000 francs. Cette hausse est consécutive à la mesure du gouvernement congolais interdisant la coupe des arbres.
Le charbon coûte très cher. Si tu en trouves vraiment par chance, tu peux acheter un sac à 50 000 francs. C'est énorme. Pour y remédier, les femmes aux filles vont chercher du bois de chauffage dans les forêts de Babembe. Malheureusement, ils sont violés. Sinon, cette quantité qu'on nous donne ne sert pas à grand-chose.
La rédaction de la radio Inzamba a cherché par téléphone les responsables du camp pour plus de détails, mais sans succès.
Merci Vanessa Meiteka. Dans quelques instants, la suite de l'actualité.
Inzamba.
Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les réseaux scolaires. Émile Nivasumba nous en dit plus.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agathe Kakawe, Radio RPA Idjouya Onyagihougou, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Ils mettent ensemble les ressources humaines, matérielles et pédagogiques pour favoriser une meilleure réussite scolaire, éducative et un épanouissement culturel. Les réseaux scolaires sont régis par l'ordonnance ministérielle du 19 décembre 2019. Ces réseaux scolaires sont-ils réellement importants dans le pays? Qu'en disent les enseignants? Nous allons également parler à un expert en éducation dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 23 avril 2022. Vous êtes avec Émile Nivasumba. Bienvenue. Le Burundi compte actuellement plus de 950 réseaux scolaires. Chaque réseau scolaire est formé de 3 à 5 écoles situées sur un rayon de 5 km. Lors de la présentation du bilan trimestriel ce mardi, le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, François Havyarimana, a rappelé le but du réseautage des écoles.
Les écoles qui sont dans la même localité, ils travaillent dans le même environnement. Cependant, il y a certaines écoles d'entre elles qui ont plus de moyens, plus de matériel didactique, plus d'enseignants que d'autres. Alors, compte tenu de ce problème, nous avons voulu qu'il y ait une entraide entre ces écoles. Nous avons voulu qu'il y ait une entraide entre les enseignants des différentes écoles qui se trouvent dans la même localité. Et pour y parvenir, nous avons alors créé ce qu'on appelle des réseaux scolaires. Alors, pour qu'il y ait cette entraide, il faut effectivement que les écoles d'abord passent le même examen afin de pouvoir déceler les forces et les faiblesses de telle ou de telle école pour que l'enseignant qui a pu avoir une bonne réussite puisse donner des stratégies à son collègue dont les élèves n'ont pas pu réussir le même examen. Cela n'est pas possible si on ne donne pas le même examen pour comparer le niveau des élèves et ensuite permettre aux enseignants, je dirais, les plus performants d'aider les enseignants moins performants pour rectifier le tir.
Nos confrères de la télévision Renaissance ont parlé à certains enseignants des différents coins du pays qui ont donné leurs avis respectifs par rapport à ce système de réseau scolaire.
Dans ce deuxième trimestre, il y a eu beaucoup de problèmes causés par ce système de réseau scolaire. Il y a eu beaucoup de lamentations de la part des professeurs, de la part des élèves. Nous avons vu des questions qui figuraient dans l'examen, alors qu'on n'avait pas encore enseigné aux élèves cette matière. Nous avons vu aussi des professeurs qui se lamentaient, surtout au niveau du déplacement. Ils devaient se déplacer pour aller surveiller ailleurs. Il faudrait que le ministère s'y mette à y organiser davantage ce nouveau système de réseau scolaire, afin que ce réseau scolaire soit bénéfique aux enseignants et aussi aux élèves.
en soi, le système des réseaux scolaires est un bon système, mais qui doit être quand même soutenu par certains fonds. Les fonds donc d'encouragement, les fonds donc de motivation, les établissements donc qui ont du matériel didactique suffisant et qui vont alors appuyer ces écoles qui n'ont pas de matériel didactique suffisant afin de pouvoir aboutir à de bons résultats en s'entraidant mutuellement. Les enseignants qui sont les plus forts, qui ont eu de bons résultats dans des examens nationaux, puissent quand même appuyer ceux-là qui ne le sont pas.
Théoriquement, on nous dit qu'avec les réseaux scolaires, c'est une occasion de relever les défis, de s'entraîner entre les professeurs. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Imaginez, on nous dit que c'est dans les réseaux scolaires qu'on va avoir les matériels didactiques. Et ces matériels didactiques qu'on n'a pas eu en dispensant les leçons, ces matériels vont nous aider. Rien du tout franchement. Il faudrait que le ministère se prépare à bien voir la mise en pratique de ce système de réseaux scolaires. Sinon, il n'y a aucune importance. C'est pour déranger l'enseignant, c'est pour déranger l'élève.
Les réseaux scolaires tels qu'ils sont organisés ne sont en aucun cas la solution au problème qui hante le système éducatif au Burundi, selon l'expert en éducation Libera Nibashira Kandi.
C'est vraiment une fausse solution à un vrai problème. Ce qu'il fallait faire, c'est notamment identifier, par exemple, les meilleurs enseignants qui, dans les différents concours, examens, leur place se classe premier. Je donne un exemple. Je prends scientifique A. Je prends le cours de mathématiques. Il suffit de prendre deux enseignants, les deux meilleures écoles. C'est-à-dire, il y a une école qui est classée première, deuxième, par exemple, au concours de fin de la neuvième année, et demander à ces deux enseignants de mettre en commun ce qu'ils enseignent. Autrement dit, leur syllabus, en fait. C'est-à-dire, ils vont produire un seul syllabus à partir de deux syllabus de deux meilleurs enseignants en mathématiques. Il y a la théorie et il y a les exercices. Il faut absolument multiplier les exercices. Alors, avoir des moyens pour faire en sorte que ce syllabus qui est enrichi, où il y a beaucoup d'exercices, le multiplier et le distribuer dans toutes les écoles du pays. Pour dire que tous les enseignants de mathématiques dans la section scientifique A enseigneraient exactement le même contenu, donneraient les mêmes exercices. Bien sûr, ça ne suffit pas. Il faut qu'en plus de ce syllabus de l'enseignant et de programme de l'élève, il faut un recyclage de tous les enseignants de scientifique A pour les former à utiliser ce syllabus et à élaborer un examen. Et c'est là où interviendraient alors les deux enseignants. C'est là où ils partageraient en fait leur expérience. Donc, le réseautage des écoles, ça n'a aucun sens sans les moyens, sans donner les conditions aux écoles pour que justement l'apprentissage des élèves se fasse dans les mêmes conditions. Je regrette fortement que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique met toujours en cause les enseignants et porter la responsabilité, c'est une façon de fuir en fait les responsabilités.
Ce sont nos confrères de la radio Inzamba qui ont recueilli l'intervention de professeur Libera Nibashira Kandi dans un séminaire organisé par le programme Apprendre en février 2021. L'inspecteur général du ministère de l'éducation et de la recherche scientifique Tarsis Niongabo a signalé que les réseaux scolaires faisait face au manque de matériel didactique, surtout dans l'enseignement des sciences, le manque de bibliothèques, de laboratoires et de matériel informatique. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 23 avril 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.
C'était l'émission Au cœur de la société.
Et comme tous les samedis, on va terminer ce journal par la revue de presse. Il est lu par Raoul Nyengout.
Revue de la presse à la radio Indamba.
Bienvenue chères auditrices et auditeurs de la radio Inzamba. La revue de presse de ce samedi débute par le journal SOS Média qui écrit sur la disparition de deux enfants du camp des réfugiés de Zalekas et au Malawi. Les deux enfants, une fille de 14 ans et un garçon de 13 ans, étaient partis à la messe ce samedi le 16 de ce mois. Ils avaient informé leur grand-mère qu'ils allaient prier, mais depuis ce jour-là, personne ne sait où ils se trouvent, les responsables de l'église, ni les avoir vus. La grand-mère s'inquiète pour ses petits-enfants qu'ils ne soient kidnappés, car, selon le journal, Le trafic des humains s'observe beaucoup à Zaleka ces jours-ci. La police de Malawi te demande aux réfugiés de garder leurs enfants, car au mois de janvier de cette année, on comptait au moins 20 filles disparues dans des circonstances floues sur une période d'une année. La page santé à présent, avec le journal eWatch, près de 2 millions de personnes exposées à l'onchocercose, le ministère se mobilise. Dans 12 districts sanitaires endémiques à l'onchocercose, une campagne de traitement a été faite ce lundi, le 18 avril. Les districts concernés sont Bobanza, Manda, Chibitoke, Mabai, Bukinanyana, Bugarama, Rumonge, Bururi, Matana, Rutana, Gihofi et Makam. Selon le journal, les zones touchées sont réparties sur 371 collines dans 24 communes. Les estimations indiquent que plus de 2 millions de Burundais sont exposés à l'onchocercose, principalement dans la plaine de Limbo et dans les dépressions de Kumoso, mais aussi dans les plateaux centraux. Cette maladie, qui se transmet par des piqûres d'une mouche noire appelée simuli infectée, présente des lésions à la peau. La victime se gratte jusqu'à ce que la peau devienne comme celle dans les arts, indique le médecin Victor Bouchoumi. Non traitée, la maladie se complique, elle devient difficile à gérer et peut conduire à la cécité et finalement à la mort. Nous poursuivons cette revue de presse avec le journal Burundi Echo. Dans son article intitulé « Quand la diglossie entre les intellectuels burundais », le journal parle de la journée internationale dédiée à la langue maternelle, une journée célébrée le 19 avril de chaque année. La journée a été célébrée à l'Université du Burundi. Selon Gertrude Kazovio, linguiste et enseignante à l'Université du Burundi, le Kirundi, en tant que langue maternelle, occupe une place de choix dans la société burundaise. Il est enseigné de l'école fondamentale à l'Université du Burundi et fait objet de recherches scientifiques, car pas mal de publications sont rédigées en Kirundi. Cependant, Gertrude Kazovio déplore le fait que des intellectuels burundais, voire des autorités, mélangent des langues à travers leurs interventions. Une situation qu'il faut décourager, même s'il est difficile pour des gens qui ont appris plusieurs langues, selon toujours la linguiste. Voilà, mesdames et messieurs, et c'est par ici que nous terminons cette revue de presse. Vous étiez avec Raoul Nguengurutse. Je vous souhaite de passer les meilleurs moments là où vous êtes. Au revoir et bon week-end.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Merci Raoul Nguengurutse et c'est par cette revue de presse que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction pour le travail abattu dans la collecte de toutes ces informations que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Passez un très bon début de week-end chez vous. Au revoir.